Alors, si vous voulez vous lever et on va lire ensemble l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 18. Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, vous voulez vous asseoir? Alors, on avait commencé un petit peu la semaine dernière à exposer le sens de ce verset-là. Je vous rappelle que dans les outils que je me sers pour exposer le texte, pour expliquer le texte, il y a un auteur qui a dit la chose suivante, et c'est pas une petite chose qu'il a dit. Il dit que dans les doctrines de la Bible, la doctrine de la résurrection, c'est sûrement une des plus grandes doctrines des Écritures. Mais il dit la doctrine de l'incarnation. Autrement dit, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre s'incarner dans une chair d'homme. Dieu, dans sa plénitude, avec tous ses attributs qui sont infinis, a décidé de venir sur cette terre et entrer dans une chair de bébé, puis qui a grandi jusqu'à 30 ans, et de 30 à 33 ans à peu près, on considère que ça a été sa vie publique, et il est venu accomplir l'œuvre pour laquelle le Père lui a... l'œuvre de rédemption. Et lui, il disait, ben ça, ben faites réfléchir, parce que quand on se met à arrêter, on dit la doctrine de la résurrection, oui, c'est une doctrine extraordinaire, parce que prendre quelqu'un mort, puis lui redonner la vie, ça prend un divin pour être capable de faire ça. Mais Dieu lui-même, de descendre du ciel, venir s'incarner dans une chair d'homme, il dit, c'est encore plus grand. Et quelque part, reviser un petit peu la doctrine de l'incarnation qu'on appelle, donc Dieu, le Fils, qui est descendu en accord avec le Père pour venir sur la terre, s'incarner dans une chair d'homme, pour venir accomplir l'œuvre de rédemption sur la croix et toute l'œuvre que Christ a fait lorsqu'il a été sur la terre, ça dépasse de beaucoup notre capacité, premièrement, de compréhension de toutes les dimensions, de toutes les facettes de ça. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Alors, Jean 1, versets 1 à 18, ça parle qu'il est venu sur la terre et il s'est incarné dans une chair d'homme. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, quelque part, son nom, on dit souvent son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Christ était l'incarnation de Dieu le Fils. Il s'est incarné dans une chair d'homme. Et c'est une doctrine extraordinaire. On avait commencé la semaine dernière à regarder un petit peu le premier aspect. On avait dit qu'il y avait comme trois idées principales à l'intérieur du texte de Jean 1. La première, c'est que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Quelque part, les gens qui ont vu Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, ça les a pris un temps fou à reconnaître qui Christ était. À un moment donné, Jésus a posé la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, il y a eu Pierre qui a eu un éclair de génie, qui a dit, « Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant. » En disant ça, le Seigneur ne lui a pas dit, « Mais Pierre, t'es donc bien intelligent, t'as vu ça, toi? » Il a dit, « C'est le Père qui t'a révélé cela. » Et vous remarquez que même s'il a vécu pendant 3 ans avec... Tous les apôtres ont vécu pendant 3 ans avec lui. Lui ont vu faire des miracles à tour de bras, guérir des aveugles, des paralytiques, marcher sur les eaux, calmer des tempêtes, et on pourrait allonger la liste. Même quand il est mort puis qu'il est ressuscité, il allait se cacher comme des lapins puis il n'avait pas encore compris qui vraiment Jésus était. Quand il a dit la phrase, il l'avait compris, mais il ne l'avait pas compris pleinement parce que même après la résurrection, ça lui a pris un temps fou, les apôtres, de reconnaître qui était la personne de Jésus-Christ. Quelque part, quand on révise un petit peu la doctrine, comme on est en train de faire ce matin, première chose à se rappeler, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a les mêmes attributs que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit. Parfaite sagesse, parfaite bonté, parfaite miséricorde, parfaite grâce, omniprésent, omniscient, toute la liste des attributs. Ce qui est extraordinaire quand on pense à Dieu, c'est que ses attributs sont tellement profonds et riches que l'éternité elle-même, imaginez-vous, nous, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont sauvés, vont un jour vivre dans la présence de Dieu et découvrir qui Dieu est. Mais pensez-vous que quand vous allez arriver au ciel, vous allez tout comprendre qui Dieu est? Jamais vous n'arriverez à comprendre parfaitement qui Dieu est, tellement il est grand. L'éternité elle-même ne suffira pas pour que vous appreniez toutes les facettes, toutes les dimensions, toute la richesse, toute la profondeur de l'être de Dieu. Ça donne ça une idée à quel point il est grand, Dieu. Mais qu'on soit là on en connaît une partie là, de sa gloire. On connaît une partie de qui il est parce que par les Écritures. Mais qu'on arrive au ciel, on va continuer à le découvrir, mais même que ça fasse 1000 ans qu'on soit là, on va tout pouvoir dire, « Ben là, je le connais, là. » Non! Tu ne pourras pas dire, « Je le connais à la perfection, tu ne le connaîtras jamais à la perfection, à cause du fait qu'il est infini. » Mais c'est ce Jésus-là qui est venu sur la terre et qui s'est incarné dans une chair de bébé. Qui, incarné, ça veut dire mis dans la chair. Il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Donc, on avait regardé dans les versets 1 à 5 la semaine dernière. On va réviser très rapidement pour tomber au deuxième point. C'est que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Alors, comme ça disait, on va juste reviser Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Car en lui, il parle de Christ là, car en lui, en Jésus, habite toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Autrement dit, qui Dieu est dans la description très, très rapide et très superficielle que je vous ai donnée tantôt là, habitait en Jésus. Enfin, alors, quand Jésus est venu, il était le Fils de Dieu avec toutes ses qualités-là. Alors, il était Dieu. Il était pleinement Dieu. Alors, il était préexistant parce que la parole nous dit qu'il a existé. De tout, la parole, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, avant qu'il vienne sur terre, il était Dieu éternel, Dieu le Fils éternel. Donc, il était Dieu. Il était aussi Dieu le Fils, il était le Créateur. Parce que ça nous dit, dans le verset 3 du chapitre 1, « Toutes choses ont été faites par elle. » Quand il dit par elle, elle, c'est qui? C'est la parole. Donc, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. On est en train de faire des cours sur le catéchisme récemment et on parlait de la grandeur de Dieu, du nombre des étoiles, du nombre de galaxies. Et on parlait qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie. La galaxie, la Voie lactée, là, il y a 100 milliards d'étoiles. Puis pour faire un petit test, j'ai dit au monde, prenez un crayon, puis écrivez 100 milliards avec des zéros. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de le faire. Mais 100 milliards, ça, c'est dans la Voie lactée, la nôtre. Mais il y a 100 milliards de galaxies avec autant d'étoiles. Et quand on dit tout ce qui a été fait par elle, imaginez-vous le nombre d'étoiles, 100 milliards multipliés par 100 milliards. Si vous êtes fort en maths, vous me direz comment ça fait. Puis vous viendrez écrire le numéro en avant. Ça, c'est des étoiles. Et le Seigneur dit dans le psaume 145 qu'il les connaît toutes par leur nom. C'est lui qui les a créées et il est capable de leur donner à toutes des noms. Ça nous donne-tu une petite idée jusqu'à quel point Dieu est grand? Jésus est grand. Jésus est grand. Prenons pas Jésus. Quand on dit le petit Jésus, et qu'on fait une grosse erreur en disant ça, il n'était pas le petit Jésus, il était le grand Jésus, il était le Fils de Dieu avec tous les attributs divins. Donc, quand on dit dans le verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que les anges sont des créatures?
Oui.
Oui. Est-ce que les anges ont été faits par Jésus-Christ?
Oui.
Oui. Donc, dans le verset 4 et 5, ça dit que Dieu, Jésus, le Fils, est... en elle était la vie, donc dans la parole, dans la personne de Christ, était la vie et la lumière des hommes. Et il dit que la lumière a lui dans les ténèbres. Donc, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre à ce moment-là? Juste des ténèbres, juste du péché à tour de bras. Même dans le peuple juif qui ne le reconnaissait même plus. Et ça dit... Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Combien il était quand Jésus est parti à la chambre haute?
140.
120? Combien il y avait de personnes sur la terre à ce moment-là? Des millions et des millions. Alors, et le peuple juif, ils ne se sont pas réveillés à qui était la personne de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Il était le Messie promis depuis dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais la parole nous encourage après. Alors, on avait aussi regardé l'idée pourquoi il était nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu. On avait regardé une citation du théologien Wayne Grudem. Alors, si jamais vous voulez vous rappeler cela, dans les sermons, on les met toujours sur Internet et vous pouvez les downloader. C'est intéressant de garder ces idées-là. Pourquoi le Messie fallait-il qu'il soit à la fois Dieu et à la fois homme dans une seule personne? Deux natures, la nature humaine, et la nature divine, et elle était unie. Mais pourquoi qu'il fallait que... Alors souvent, on ne se pose pas ces questions-là, mais on aurait intérêt à se poser des questions et à méditer pourquoi il fallait qu'il soit Dieu. Donc, on était rendu là, la semaine dernière. On va continuer. La deuxième idée, c'est que Jésus-Christ est pleinement homme. Non seulement il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Donc, on peut résumer l'enseignement biblique sur la personne de Christ de la manière suivante. Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne et il le sera éternellement. Ça, c'est une petite idée qu'on a Je ne suis pas sûr qu'on se souvient de ça. Regardez bien ce que ça dit. Pleinement Dieu, pleinement homme en une seule personne, et il le sera éternellement. Jésus est où, là, actuellement?
Au ciel.
Au ciel. Est-ce qu'il est encore dans son corps?
Oui.
On pense pas souvent à ça. Hein? Il est au ciel. Ça dit, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, et il le sera éternellement. Donc, sa nature divine, dans sa nature corporelle, il est au ciel, et il va l'être éternellement. On ne pense pas souvent à ça. Quand tu revises ça, tu dis, ah, c'est vrai, je pense à ça. Quand on traite de l'humanité de Christ, il convient de commencer par l'étude de sa naissance virginale. Aujourd'hui, dans les milieux théologiques, américains, anglais, un peu partout dans le monde, il y a une vague de ce qu'on pourrait appeler libéralisme. Le libéralisme, c'est pas un mouvement politique, là. Les libéraux, en théologie, ce sont ceux qui doutent de tout ce qui est miraculeux dans les Écritures. Alors, une des premières choses qu'ils ont commencé à douter, c'est justement la naissance virginale. Oh non, ça se peut pas, ça. Que ce soit le Saint-Esprit qui a fait en sorte que Marie accouche d'un bébé, puis que c'est pas par l'union de Joseph et de Marie. Et là, ils font les gorges chaudes de ça, et ils sont en train... Mais, dites-vous une chose, si Jésus n'était pas... il n'avait pas la naissance virginale, personne ne pourrait être sauvé. Parce que, pour que Christ puisse venir sur cette terre et subir le châtiment, il fallait qu'il soit sans péché. Et dès qu'un être humain a un autre être humain avec une femme, un homme et une femme ont un enfant, l'enfant naît automatiquement pécheur. Il fallait que Jésus ne soit pas un pécheur. Donc, c'est pour ça que les Écritures nous disent que Christ est sorti de Marie, elle était enceinte, mais ce n'était pas par l'union d'un homme et d'une femme, ce n'était pas par l'union de Marie et de Joseph. C'est une naissance miraculeuse. Elle est venue au monde, quand Jésus est venu au monde, il n'a pas hérité de la nature pécheresse. Ça, c'est essentiel en théologie. Si on ne comprend pas ça et qu'on ne comprend pas la nécessité qu'il soit comme ça, à quelque part, on peut même pas être sauvé. Il fallait que Jésus soit comme ça. Alors, la naissance virginale, la Bible enseigne clairement que Jésus a été conçu dans le sein de sa mère Marie par une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit et sans l'intervention d'un père humain. Quand on dit ça autour de nous autres aujourd'hui, on fait rire de nous autres. Mais t'es malade. Tu veux pas que tu crées gros au Père Noël? Ils disent ça, puis c'est pas juste... C'est, même dans le milieu chrétien, là, cette idée-là a commencé à se répandre. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans, là, parce que c'est votre destinée éternelle qui en dépend. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu au monde un bébé, et il est venu au monde avec les faiblesses et les limitations, comme les nôtres. Il a connu la croissance physique. S'il était un bébé et il est devenu un adulte, c'est parce qu'il a connu la croissance physique, la même chose que n'importe quel autre bébé. Il a connu, selon les Écritures, la fatigue. Donc, à quelque part, il fallait qu'il y ait un vrai corps humain pour que quand tu marches et que tu es un bout de temps sans manger, tu connaisses la fatigue. Il a connu la faim. J'ai faim. Quand il a eu la tentation dans le désert, il a dit qu'il avait faim. Il a connu la soif, il a connu le jeûne. La première chose qu'il a faite avant de rentrer dans son ministère public, c'est que le démon l'a emmené, l'esprit l'a emmené dans le désert pour être tenté. 40 jours, le jeûne. Essayez pas ça. Je vous le conseille pas. 40 jours que le Seigneur a connu ce que c'était le jeûne. Il a connu ce que c'était la souffrance. Plus que n'importe quel être humain sur la terre. Quand quelqu'un a une maladie, puis il s'imagine qu'il sait ce que c'est quoi la souffrance, dis pas qu'il la sait pas. Il la sait. Mais si tu la compares avec la souffrance que Christ a subie sur la croix, ça se compare même pas. Alors, il a connu la souffrance, etc. Donc, tout ce qui est humain, que nous, on connaît, lui aussi l'a connu. Parce qu'il avait un corps d'homme, parfaitement homme, dans toutes ses dimensions. Donc, il avait une pensée humaine, il avait une âme humaine et il avait des émotions humaines. Les personnes qui l'ont vu, lorsqu'il est venu sur la terre, n'ont vu en lui qu'un homme. Même après sa résurrection, même après avoir vu tout ce qu'il a fait sur la terre pendant 3 ans, qui était miraculeux, ils n'ont pensé que c'était encore uniquement un homme. Ça a été long avant qu'ils réalisent. Un peu plus tard, là, Pierre, il s'est réveillé, les autres apôtres se sont réveillés, Paul a prêché la parole et a développé l'idée dans les Épîtres, qui Christ est. Aujourd'hui, si on sait qui Christ est, c'est Dieu, par grâce, qui nous a donné dans les Écritures. Alors, Jésus est le seul homme qui n'a jamais péché. Dans tous les hommes qui ont passé sur la terre, on parle de milliards. Il est absolument unique en ce sens qu'il est le seul qu'il est à la fois homme et Dieu. Il n'y a jamais un autre homme qui a connu ça. Homme et Dieu. L'homme-Dieu. Donc, quand on regarde les versets 6 à 8, on voit que Dieu avait envoyé quelqu'un pour témoigner de qui, témoigner de l'identité de la personne qui viendrait. Dans versets 6 à 8, dans Jean 1. Il y eut un homme, appelé Jean, donc c'est qui? Jean-Baptiste, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Donc, Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu lui-même pour rendre témoignage de l'identité de celui qui venait après lui. C'est à ça sa job, lui. Alors, le texte affirme clairement que Jean-Baptiste était un homme. Son nom, le mot Jean, le prénom Jean signifie... Intéressant, ça aussi. Les prénoms Jean signifient... L'Éternel fait grâce. Alors, il était le messager que Dieu avait promis par le prophète Malachie. Malachie, c'est le dernier livre des Écritures, de l'Ancien Testament, pas des Écritures, mais de l'Ancien Testament. Ça dit, « Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. » Donc, dans le livre de Malachie, Dieu est en train de dire qu'il va envoyer un homme avant l'arrivée de son fils pour qu'il témoigne de qui il est. Alors, le rôle de Jean-Baptiste était de servir de témoin et de préparer la venue du Messie qu'on appelle le Christ. Si on fait une petite révision... théologique. Le mot Christ veut dire quoi? Le mot Jésus veut dire quoi? On peut faire un sermon avec deux mots. Charles Spurgeon a fait ça un moment donné dans son église, avec deux mots, Jésus et Christ. Jésus veut dire quoi?
Sauveur.
Christ veut dire quoi? Il y a trois facettes, trois aspects. Ça veut dire le oint. Le oint du Saint-Esprit. Donc, il était oint du Saint-Esprit. Il avait reçu l'onction du Saint-Esprit d'une façon exceptionnelle, unique. Il n'y a rien que lui qui a reçu ça. Et il y avait trois choses. Le prophète, oui, il était celui qui parle au nom de Dieu, mais pas de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament. Il parlait directement au nom de Dieu. Pas juste au nom de Dieu, il était Dieu. Alors, sa façon d'être prophète est encore plus fort que quelques prophètes que ce soit de l'Ancien Testament. Il était le sacrificateur, oint. Sacrificateur, celui qui a pris sur lui la punition qui aurait dû être la nôtre et il a accompli la loi de notre place. Je vous l'ai dit que je mette les dimanches depuis 2 ans. Je n'ai pas fini de vous le dire. Parce que c'est tellement merveilleux. Quelqu'un qu'on comprend vraiment, on est sacrificateur oint. Et il y avait une autre chose qu'il était aussi pour oint. Le roi. Le Messie, c'était le roi des Juifs. Quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, il était le prophète oint. Il était le sacrificateur oint. Et il était le roi oint. Donc, quand Jésus-Christ, et si on voudrait exposer juste la signification du nom de Jésus et la signification du mot Christ, on en aurait pour des mois et même des années, tellement il y a du stock là-dedans. C'est riche, d'une richesse incroyable. Alors, il devait amener Israël à la repentance et à la foi au sauveur Jésus-Christ. Ça, c'était la job à Jean. Préparer la voie. Dans Jean, 1 Jean, chapitre 5, au verset 7, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit. On parlait de témoignage. Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus qui il était. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7, il a dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. » Et ces trois-là sont un. Il est en train de parler de la doctrine de la Trinité que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Un seul Dieu en trois personnes. Un verset qui vient tout résumer la doctrine de la Trinité. Très important. Et Jean-Baptiste, dans les versets 9 à 12, il nous dit que Jésus était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui était venu dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Quand il est venu, est-ce que Jésus était accueilli comme étant le Messie, comme étant celui qui venait régler le problème majeur des hommes, qui était leur péché? Si tu meurs dans ton état de pécheur, sans avoir reçu la grâce de Dieu, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Il est venu ici pour nous sauver de cela. C'est ça que ça veut dire être sauveur. Il dit, il est venu pour ça, mais son peuple ne l'a pas reconnu, ils n'ont pas voulu reconnaître qui il était, même s'il les a dit ouvertement. Mais il y a quelque chose d'intéressant au verset 12 qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que nous on l'a reçu Jésus?
Ouais.
Est-ce qu'on l'a reçu comme étant le prophète ouin, comme étant le sacrificateur ouin, comme étant le roi ouin, comme étant celui qui nous a donné la vie éternelle, c'est ça que ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, reconnaître qui il est, ce qu'il a fait, sa personne et son œuvre, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Est-ce que vous croyez en son nom?
Amen. Oui.
Donc, en croyant en son nom, la parole dit que vous avez reçu le droit d'être des enfants de Dieu. On se rend-tu compte? Parce que la Bible dit que tous ceux qui ne sont pas sauvés sont des enfants du diable. Alors, quand on devient sauvé, on change de famille. De enfant du diable, tu deviens un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, là, c'est un terme qu'on entend tellement souvent qu'on est des enfants de Dieu, que quelque part, on ne comprend plus toute la dignité qui est rattachée à ça. Quand tu dis, disons, je ne sais pas, quelqu'un qui est bien riche, il va dire, « Ah, mon père, moi, c'est un tel, il est riche, il est puissant. » Mais même l'homme le plus connu du monde, l'homme le plus riche du monde, comparativement à Dieu le Père, c'est titi, comme on dit. C'est titi. Nous, comme croyants, on devient les enfants de Dieu le Père, ses enfants. Tu sais que son père est ça? On sait comment on les aime, nos enfants. Bien, Dieu le Père, l'amour que tu as envers tes enfants, penses-tu qu'à ce qu'on part avec l'amour que le Père a envers nous? Le Père, l'amour qu'il a envers nous, c'est indescriptible, c'est d'une profondeur, d'une richesse, d'une beauté. On est enfants de Dieu, le roi de l'univers, on est ses enfants. Donc, à quelque part, on est des princes, on est des princesses de Dieu. Et ça dit dans le verset 9 que Christ était la véritable lumière, et Christ et cette lumière-là étaient sur la terre dans le verset 10. Dans Jean 16, verset 28, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, « Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. Quand il retournait, il dit qu'il retourne dans son Père. Le travail qu'il avait à faire, l'œuvre que son Père lui avait confiée, il l'a accompli et après il est monté au ciel. Dans son nouveau corps. Et la Bible dit qu'il va avoir ce corps-là, l'unité de son corps et de son âme ressuscité, là, dans son corps ressuscité, il va l'avoir pour l'éternité. Quand on va le voir dans son corps. Et Jean 17, verset 11. Verset 6 à 11. Alors, le Seigneur, il dit, dans Jean 17, c'est la prière sacerdotale qu'on appelle. Le Seigneur, il est en train de rappeler à ses disciples des choses importantes. Il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils les ont connues, véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Alors, ça dit aussi qu'il est venu dans le verset 11, Christ est venu vers Israël, vers son peuple, et le peuple l'a rejeté. Et, cependant, un reste d'Israël, c'est l'ensemble, un certain nombre de ceux qui étaient du peuple d'Israël l'ont reçu, et eux, ils ont reçu, comme Pierre, les apôtres, ils l'ont reçu et sont devenus les enfants de Dieu. Donc, les élus de Christ l'ont reçu comme prophète, comme sacrificateur, comme roi. C'est intéressant, notre confession de foi baptiste de Londres, 1689, quand ça nous parle de Christ, le médiateur, donc il était le médiateur entre Dieu et les hommes, il est venu pour régler le problème qu'on avait. Ça dit, le nombre et l'ordre de ses offices. Quel office?
Roi, sacrificateur.
À cause de notre ignorance, nous avons besoin de son ministère prophétique. À cause de notre aliénation de Dieu et de l'imperfection de ce qu'il y a de mieux dans notre service, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et nous rende acceptables à Dieu. Si on fait des bonnes œuvres aujourd'hui, nos bonnes œuvres sont acceptables par Dieu à cause de Christ. Parce que les actions des hommes, que nous on appelle des bonnes actions, s'ils ne sont pas faits en Christ, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Nos bonnes actions, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu à cause de la personne de Christ. Et troisièmement, à cause de notre aversion et de notre incapacité totale à retourner à Dieu, en vue de la délivrance de nos adversaires spirituels et de la sécurité qui en résulte, nous avons besoin de son office royal. Nous convaincre, nous assujettisse, nous attire, nous soutienne, nous délivre et nous garde en vue de son royaume céleste. Voyez-vous, il est en train de parler de la nécessité des trois offices de Christ. Il dit, à cause de notre ignorance, on a besoin de l'office prophétique. À cause de notre aliénation de Dieu, ça veut dire qu'on est séparé de lui, on a besoin du sacrifice, on a besoin de la sacerdoce de Christ, donc de son office de sacrificateur, et de son office royal pour nous convaincre, nous assujettir, nous attirer. C'est la confession de foi 1689, si vous la lisez comme il faut, c'est bien rédigé. Hein. C'est rédigé avec un très grand soin. Donc, Jean-Baptiste leur rappelle au peuple juif que ce cadeau qu'il leur est donné, un cadeau qu'on appelle, les Écritures utilisent le mot « ineffable ». Qu'est-ce que ça veut dire « ineffable » Ça veut dire que même l'homme le plus habile dans sa capacité d'expliquer les choses, « ineffable », ça veut dire que tu ne peux pas expliquer ça, c'est ça te dépasse ta capacité de ça te dépasse. Le don de Jésus, là, à l'humanité, c'est un don ineffable. L'être le plus qualifié de la terre qui essaierait de parler de Jésus en des termes qui donneraient vraiment justice à qui il est et à ce qu'il a fait, c'est ineffable, donc on ne peut pas en parler. On peut en parler avec une certaine intelligence, mais pas pleine intelligence. C'est une grâce. Donc, versets 13 et 14, ça dit que quand Dieu a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, il veut nous rappeler des vérités. Il dit qu'ils ne sont point nés du sang. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ils ne sont point nés du sang. Autrement dit, il est en train de dire qu'on ne devient pas chrétien de père en fils. C'est personnel, notre relation avec Jésus-Christ. C'est pas à cause que ton père est chrétien que tu es automatiquement chrétien. Ça peut arriver que ton père soit chrétien et que tu ne sois pas chrétien du tout. Il dit que le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, ça, tu peux devenir un enfant de Dieu uniquement si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Pas le sauveur de ton père, sauveur personnel. Il dit qu'on n'est pas né du sang, donc on n'est pas né, on ne devient pas chrétien à cause que notre père est chrétien ou que notre mère est chrétienne. Après ça, il dit « ni de la volonté de la chair ». Autrement dit, il est en train de nous dire que ce n'est pas parce que j'ai décidé que je devenais chrétien que je suis chrétien. On est chrétien par la grâce de Dieu, Dieu, la grâce souveraine. Dieu lui-même a décidé qui recevrait la grâce et qui ne la recevrait pas. Et après ça, il dit « ni de la volonté de l'homme ». Donc, ce n'est pas ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. On est né de Dieu. Il dit qu'on n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Pas nés charnellement, pas nés dans ton corps physique, nés spirituellement. Et après ça, le verset 14, c'est le verset glorieux du passage. Et la parole est en train de parler de Jésus, éternel, avec tous les attributs divins, a été faite chair. Il s'est incarné dans une chair d'homme, avec les mêmes problèmes. Et il a habité parmi nous. Donc, Dieu a habité. Quand les Écritures disent, et son nom était Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était véritablement le cas. Dieu était en Jésus et il était dans la chair de Jésus-Christ, dans la chair de Jésus, et il était avec nous. Dieu était avec nous quand Jésus est venu. Pleine de grâce et de vérité. Tout ce que Jésus a dit, c'est à toute la vérité. Pleine de grâce, ça veut dire la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu nous la donne pas parce qu'on la mérite, nous la donne par pure bonté, par pure souveraineté. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait avec les âmes des hommes. Et nous avons contemplé sa gloire. Ici, c'est qui parle dans Jean? C'est l'apôtre Jean. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Quand est-ce qu'il a fait ça, Jean, contempler la gloire de Christ? La transfiguration, ça vous dit de quoi? Il l'a vu sur la montagne. Il dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lui, il a compris, Jean, quand il est en train de dire ça, il a compris qui Jésus était. Nous avons contemplé sa gloire. Puis il est en train de la contempler actuellement, là, Jean l'apôtre. Puis il va la contempler pour l'éternité. Donc, quand il nous dit qu'il nous a donné un cadeau, donc, la régénération, la nouvelle naissance est un don de Dieu. Ce don-là, il ne se transmet pas par tes parents, il ne se transmet pas par la volonté humaine, mais il se transmet par la volonté divine souveraine de Dieu. Autre chose qu'on ne parle pas souvent, mais quand j'ai préparé le sermon, il disait une chose qui était vraie. Il dit, la doctrine de l'adoption, le fait que nous, des anciens pécheurs, qui est encore pécheurs même après notre régénération, on est adoptés par Dieu, on devient les enfants de Dieu. Il dit qu'on prêche pas assez là-dessus, l'auteur, je suis d'accord avec lui. Il dit, le croyant est adopté par Dieu le Père et acquiert par le fait même une dignité et jouit de privilèges indescriptibles et d'un héritage, d'une richesse inouïe et infinie. Le croyant est adopté par le roi de l'univers. Papa, il est riche. Papa, il est puissant. Papa, il y a toutes les qualités possibles que tu peux imaginer. Ça dépasse notre capacité de compréhension. On est les fils de Dieu, on est les enfants de Dieu. À cause du fait qu'on a reçu la personne de Christ, on l'a reconnu comme étant notre sauveur, comme étant celui qui pouvait nous libérer de notre esclavage de Satan, puis de notre attachement à nos péchés. Puis si on aurait décédé dans cet état-là sans recevoir la grâce, on s'en allait en enfer pour l'éternité. Galates, chapitre 3, verset 26. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » On est des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. » On est régénéré comment? Deux choses. L'Esprit Saint qui souffle dans sa parole. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, quand vous donnez un calendrier à quelqu'un, la parole est dessus. Et si l'Esprit souffle dans sa parole, il peut en résulter une régénération, quelqu'un qui ses péchés vont être pardonnés et il va aller vivre avec Dieu pour l'éternité. À quelque part, ne sous-estimons pas la parole de Dieu. Distribuons-la, parlons-en, on n'en parlera jamais assez. Alors, il nous dit ici qu'on n'est pas régénéré par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Donc, c'est en distribuant la parole de Dieu que Dieu peut faire l'effet par le Saint-Esprit de souffler dedans. Et c'est quand il souffle dedans que la personne comprend ce que Dieu dit. Parce que vous pouvez donner la parole de Dieu à 1000 personnes, ils vont toutes la lire, ils vont en avoir 999 qui vont rien comprendre de ce que Dieu dit. Puis le Seigneur va souffler sur un, et là, lui, il va lire le verset, puis il va dire, « Ah! » Il va allumer. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé qu'il allumait. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Jésus, Dieu a été manifesté en chair. Quand on dit Dieu dans le passage, on était en train de parler de Jésus. Jésus, et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché par les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Car nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 à 18. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la Sainte Montagne. Il est en train de faire référence à la transfiguration. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'avais pensé en préparant le message parce qu'il durera au moins 3 semaines. Il n'est pas tout à fait fini. Et on pourrait rester longtemps là, sur l'incarnation parce que c'est une grande doctrine. Alors, on va arrêter là pour le moment. Alors, si vous voulez passer, calendrier, puis après ça, on va faire un dernier chant. Pas les calendriers, mais les anciens précieux.